J'ai quelque peu hésité avant de choisir le sujet de cette dernière étude de notre année de travail. J'avais envisagé de conclure notre série sur la Bible en parlant en une fois de toute la question de l'interprétation de la manière de lire et de comprendre la Bible. Mais je me suis dit qu'au bout du compte, une seule séance ne suffirait pas, qu'il valait mieux, si vous le souhaitez, que nous entamions une seconde série l'année prochaine sur ce sujet, ou une autre année. J'essaierai de tenir compte de vos vœux. Et du coup, j'ai préféré prendre comme sujet pour terminer notre série sur la Bible, la question de la traduction de la Bible. La traduction et les traductions de la Bible. Alors j'ai apporté avec moi non pas toutes les traductions en français que je possède, mais un certain nombre quand même, qui pourront être comparées à certains moments de l'heure que nous passons ensemble. Donc c'est le sujet de la traduction et des traductions qui va nous occuper ce matin. Je pense qu'il serait bon que nous lisions quelques versets qui nous introduiront à notre sujet dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, les trois premiers versets et puis les versets 7 et 8. Néhémie, chapitre 8, et après cette lecture, je demanderai à M. Chaudrin de présenter notre temps d'étude en commun au Seigneur. Néhémie, chapitre 8, les trois premiers versets, puis versets 7-8. Le septième mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du septième mois. Il lut dans le livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Au verset 7, il est question de divers assistants d'Esdras qui faisaient comprendre la loi au peuple et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et ils en donnaient le sens, on le présume, en araméen, alors que le texte qu'ils avaient lu était hébreu. L'araméen est à peu près distant de l'hébreu comme l'italien du français. Donc ils traduisaient pour le peuple qui avait pour langue quotidienne plutôt l'araméen. Et la tradition juive considère que c'est l'ancêtre des traductions bibliques utilisées dans les synagogues qu'on appelle les targoums. Les targoums, ce sont des traductions un peu délayées, un peu paraphrastiques, en araméen, qui communique le sens de l'original hébraïque, de la Torah, de la loi de Dieu. Esdras, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, a été conduit à une traduction dont nous parle ce passage. Prions ensemble. Monsieur Chaudrin nous conduit. Amen. La Bible est pour nous la parole que Dieu nous adresse, la parole qu'il a inspirée, la vérité à 100% qui nous révèle ce qu'il en est de lui, ce qu'il en est de nous, ce qu'il en est de son rapport à nous. Mais la parole que Dieu a adressée aux humains de tous les temps, c'est en hébreu, c'est en grec pour la deuxième partie de la Bible, c'est en araméen pour quelques chapitres. ce n'est pas, pour la plupart d'entre nous, directement dans ces langues que nous sommes capables d'entendre ce que Dieu a décidé de nous dire. Il faut passer par la traduction. Or, il ne va pas de soi qu'une parole sainte soit considérée comme traduisible, puisse faire l'objet d'un travail de traduction. Dans beaucoup de religions, on regarde avec réticence, suspicion, l'idée même de traduire. En fait, vous le savez, en français, on ne doit pas dire le Coran. Si on a un volume en français, ce n'est pas le Coran. C'est une interprétation française du Coran. Mais pour les musulmans, le Coran est intraduisible. Ce n'est plus vraiment le Coran s'il est traduit. Et c'est pourquoi, dans bien des pays d'islamisation assez récente, où la langue n'est pas l'arabe, les enfants, dans des écoles coraniques, apprennent par cœur des sourates qu'ils sont incapables de comprendre. Ce n'est pas leur langue, il s'agit simplement qu'ils répètent les sons parce que c'est là le texte sacré. Et il y a une tendance dans la plupart des religions à reléguer les textes que l'on considère comme sacrés des formes linguistiques que finalement presque plus personne ne comprend. Ça a été le cas même dans la tradition chrétienne, puisque très longtemps c'est le latin, qui pourtant n'est pas la langue originale de la Bible, qui a été la langue des offices, et la plupart des gens qui étaient là ne comprenaient rien. Mais voilà, cela semblait très bien convenir au sens du sacré que précisément on n'y comprenne rien. Est-il vraiment juste, dans ces conditions, de chercher à traduire la parole de Dieu, qu'il a dite en hébreu ou en grec, à traduire le contenu de la Bible? À cette question, nous devons répondre sans hésiter un oui franc, massif. Il est très clair dans la Bible elle-même que Dieu veut la traduction de ses paroles. Contrairement à la tendance que l'on voit donc dans beaucoup de religions humaines, le message que Dieu a communiqué aux humains, il le veut traduit. Déjà le fait que dans la Bible elle-même, il y ait deux langues, même trois, quelques chapitres en araméen, suggère que Dieu ne veut pas se cantonner à une seule langue et qu'il aime la traduction. Dans le Nouveau Testament, nous avons de nombreuses citations faites de l'Ancien Testament. Elles sont traduites. C'est une traduction. En général, elles sont reprises de la traduction qui était courante parmi les juifs de ce temps-là. Déjà dans le judaïsme, on s'était rendu compte qu'il était normal de traduire. Comme beaucoup de juifs étaient dispersés dans d'autres nations et s'étaient mis à parler la langue courante de l'Empire, le grec, déjà environ 3 siècles avant Jésus-Christ, on a commencé à traduire en grec les textes de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Ça s'est étalé d'environ au moins 300, donc, ça c'est la date qu'on peut situer le plus tôt, jusque dans le courant du 2e siècle avant Jésus-Christ, pour la traduction dite des Septante. Parce qu'une légende, c'est plutôt une légende qu'une vérité historique, une légende a fixé le nombre à 70, 70 des traducteurs qui ont travaillé pour traduire donc l'Ancien Testament d'hébreu en grec, à usage des juifs. Et il y a même un détail, une fioriture de cette légende qui a beaucoup frappé les imaginations. Il a été dit, ce n'est pas une vérité historique, il a été dit que ces 70 traducteurs avaient travaillé séparément, tout à fait indépendamment les uns des autres, et quand ils se sont retrouvés et qu'ils ont mis leur proposition sur la table, ils tombaient exactement sur les mêmes mots, leur traduction, 70 traductions coïncidaient à 100%. Nous n'avons pas à croire cela, n'est-ce pas? Mais la traduction donc des 70 avait déjà connu une large diffusion parmi les juifs et elle est reprise par le Nouveau Testament. Cet effort de traduction est tout à fait approuvé par le Seigneur et les apôtres. C'est d'ailleurs cette traduction qui a été la Bible courante pour les premières églises chrétiennes. Et elles s'en sont tellement servies que les Juifs, dans leur réaction contre le christianisme, n'en ont plus voulu à ce moment-là. Et au deuxième siècle après Jésus-Christ, alors ils ont fait d'autres traductions, souvent ultra-littérales. Il y a eu Aquila, Symmaque, Théodotion qui ont proposé des traductions. Et dans l'Antiquité, il y a eu d'autres traductions, en syriaque par exemple, c'est une des variétés de l'araméen, on l'appelle la Peshitta ou Peshitto, ce qui veut dire simple en fait. Et puis il y a eu une traduction en latin, la vieille latine qui a été reprise, révisée, remaniée et complétée par Saint Jérôme à la fin du IVe siècle. Donc, il y a eu des traductions dans l'Antiquité. Et on peut noter que c'est tout spécialement dans les courants de piété chrétienne les plus vifs, réveillés, si vous préférez, dans l'axe de la réforme, les plus soucieux de lecture biblique, qu'il y a eu le plus d'efforts de traduction. Déjà pendant le Moyen-Âge, ce sont les pré-réformateurs, comme on les appelle, quelqu'un comme Wycliffe en Angleterre, qui se sont attelés à la tâche de traduire pour que tout le monde puisse comprendre, et pas seulement les lettrés qui pouvaient lire le latin. Et ça a été un des traits majeurs de la réformation au XVIe siècle que le travail de traduction biblique. Luther a été un traducteur formidable. Il savait très bien l'hébreu et le grec, et il a dit d'ailleurs que le grand malheur de l'Église chrétienne dans les siècles précédents, c'est qu'elle n'avait plus appris l'hébreu. Et il a traduit une traduction si forte qu'elle a créé l'allemand moderne. C'est ce qu'on considère habituellement. Et du côté français, c'est un parent de Calvin qui a fait la traduction, qui a servi de base ensuite pendant plusieurs siècles, la traduction de Robert Olivetan. Et il y a un détail d'ailleurs qui est assez intéressant à connaître. Il a été subventionné, soutenu financièrement dans ce travail de traduction par les Vaudois d'Italie. C'est un trait d'union entre ce mouvement des Vaudois qui datait du XIIe siècle pendant le Moyen-Âge et qui a été férocement persécuté, obligé de se réfugier dans les vallées les plus reculées des Alpes. Ce mouvement, donc, qui était né de la prédication de Pierre Valdo, un Lyonnais, mais qui se retrouve maintenant en Italie, a reconnu dans le message de la Réformation au XVIe siècle le message biblique, et du coup, bien qu'il ne se soit pas agi d'un mouvement très riche, c'était des gens dans les montagnes, il a soutenu financièrement le travail de traduction de Robert Olivetan. Et ça a continué ensuite. Le grand pionnier des missions modernes, le baptiste William Carey, a commencé tout de suite par un travail de traduction, et ça a obligé à faire des dictionnaires, à faire des grammaires, il a fait tout un travail de linguistique en Inde, en entamant son travail missionnaire. Et jusqu'à nos jours, la mission Wycliffe, qui s'appelle aussi l'Institut international de linguistique, ou la Société internationale de linguistique, SIL, fait un travail de traduction extraordinaire, d'ailleurs en collaboration avec les sociétés de l'Alliance biblique universelle, et du même coup, met par écrit des langues qui n'étaient pas écrites, fait progresser la science linguistique de façon remarquable. J'ai une fois eu l'occasion ici à Paris de traduire une intervention de Kenneth Pike qui venait recevoir un doctorat honoris causa à la Sorbonne pour son travail de linguiste. Et si je l'ai traduit, c'est parce que c'est un évangélique qui était venu rendre visite aussi à notre faculté qui a fait ce travail de linguistique en rapport avec la tâche de traduction missionnaire. La traduction biblique est tout à fait caractéristique du christianisme et du christianisme le plus engagé, le christianisme le plus zélé. Et donc, c'est tout à fait en accord avec ce qu'Esdras, le premier, sur la place des eaux, d'après le livre de Néhémie, a organisé comme nous l'avons lu il y a quelques instants. On pourrait aussi signaler l'importance du chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens, où il ne s'agit pas de traduction biblique, où il s'agit du don des langues, de la glossolalie, du parler en langue, mais où cependant il est très intéressant de voir à quel point pour Paul l'intelligibilité compte. Il faut que les gens puissent comprendre. C'est comme ça que l'Église est édifiée. Il dit, si quelqu'un parle en langue et ne sait pas ce qu'il dit, ça peut l'édifier personnellement, lui, et alors qu'il le fasse en privé, parce qu'il est le siège d'un travail miraculeux qu'opère l'Esprit de Dieu. Mais si c'est pour édifier l'Église, il faut qu'on puisse comprendre. Donc préférer la prophétie, qui est un discours en langage intelligible, qui comprend la prédication et d'autres formes, ou bien alors, s'il y a parler en langue, il faut qu'il puisse être traduit pour qu'il soit vraiment bien compris. Il faut qu'il y ait une parole porteuse de sens. C'est un terme qu'il utilise. Donc, pas d'hésitation. Dieu approuve la traduction. Mais qu'appelle-t-on exactement traduction? Je crois qu'il est intéressant, si nous voulons considérer la question de la traduction biblique, de nous rappeler en quoi consiste le fait même de traduire, en général, pas seulement la Bible. Traduire, ça veut dire conduire à travers. Traduire, c'est conduire quelqu'un à travers l'intervalle qu'il y a entre deux langues. Il y a un texte qui est écrit dans une langue A, la personne se trouve à une certaine distance parce qu'elle ne connaît que la langue B. Et le traducteur traverse ou fait traverser l'intervalle en disant ce qui est énoncé dans la langue A, dans la langue B. Voilà ce que signifie traduire tout bonnement. Il s'agit d'exprimer le sens qui a été exprimé dans une première langue, dans une autre. Et ainsi, on lance comme un pont, on fait traverser, on lance comme un pont sur le fossé qui sépare deux langues différentes. Par exemple, l'hébreu et le grec, l'hébreu et le français, ou l'anglais ou le français. La possibilité de la traduction, il me semble qu'il faut être clair pour nous qu'elle est double. La possibilité de la traduction, c'est d'abord que les langues ne sont pas absolument étrangères les unes aux autres. Si les langues n'avaient aucun rapport les unes avec les autres, si c'était comme des kilogrammes et des mètres, vous ne pouvez pas traduire des kilogrammes en mètres. Si elles étaient absolument étrangères les unes aux autres, il n'y aurait pas de traduction possible. C'est parce qu'il y a une communauté entre toutes les langues que toutes les langues correspondent à l'expérience humaine du même monde, avec des traits qui sont semblables pour tous les humains. Et il faut bien en parler. Tous les humains sont obligés de tenir compte de la différence du haut et du bas. Bon, bien, dans toutes les langues, il y a une manière de dire le haut et le bas, la droite et la gauche. Et ça crée quelque chose de commun entre toutes les langues. C'est comme ça qu'on peut passer d'une langue A à une langue B. Et puis d'autre part, un second trait caractéristique des langues, c'est la souplesse des langues. La langue et le langage, hein, la langue est un instrument merveilleux. Vous réussissez toujours à dire les choses. Même si vous avez peu de mots, vous les accumulez, vous les arrangez, vous les combinez, et finalement, c'est un travail, mais on y arrive. Vous pouvez toujours remplacer un mot par une explication avec d'autres mots. Toujours, c'est une caractéristique de toutes les langues. C'est comme ça que vous pouvez expliquer un mot ignoré à quelqu'un qui ne le connaît pas. Vous employez les mots qu'il connaît. Ça veut dire une souplesse. Et c'est grâce à cette souplesse qu'un message qui a été encodé, exprimé dans le code d'une langue A, peut, malgré les différences entre les langues, nous allons bien sûr en reparler, quand même être exprimé dans une langue B. Mais ça réclame un travail, et il faut reconnaître que c'est toujours difficile, parce que les langues ne se correspondent pas purement et simplement. C'est pas comme les deux mains qui se correspondent exactement. Vous avez des découpages dans le lexique, vous avez des tournures qui ne se correspondent pas du tout. En français, on va indiquer quel est le sujet, quel est le verbe, quel est le complément, en général en suivant cet ordre. On dira le chat mange la souris, ça ne voudra pas dire la souris mange le chat. Mais dans d'autres langues, vous pourrez changer l'ordre des mots à votre guise, et c'est d'une autre façon que l'indication sera donnée, les déterminaisons, par exemple en latin. Dans certaines langues, il faut aboutir, il y a des règles assez compliquées, en allemand par exemple, le verbe tout à la fin. Alors vous avez une longue phrase, puis on attend pour avoir enfin le verbe tout à la fin. Les langues ne sont pas des décalques les unes des autres. Malgré ce qu'il y a de commun entre elles, il y a des différences sensibles. Et du coup, c'est pas facile de passer de l'une à l'autre. Il y a facilement du jeu. Ça ne colle pas à 100%. C'est pour ça qu'on dit traducteur, traditore, traduttore, traditore, traducteur, traître. Impossible d'avoir une traduction à 100%, il y a toujours un élément qui représente un petit écart. Les jeux de mots, on ne peut pas traduire un jeu de mots le plus souvent. Donc, voilà, on perd quelque chose. Et puis, dans tous les actes de langage, en fait, il n'y a pas seulement les mots qu'on prend, il y a la situation qui est impliquée. Il y a tout le contexte que parfois des indices permettent de repérer, mais qui appartiennent à la totalité de la communication linguistique. Et du coup, de nouveau, il peut y avoir du jeu dans la traduction de la langue A, ou de la situation A à la situation B. Et en outre, du fait que les langues sont des instruments si souples, elles sont aussi toujours un peu approximatives, sauf les langages machines, mais qui n'ont justement pas de souplesse, et qui ne peuvent marcher qu'avec des machines. À cause de la souplesse, on peut hésiter sur le sens exact d'une chose qui a été dite. Comment bien comprendre? Et du coup, quand on doit traduire, si je comprends comme si, je traduis si, si je comprends comme ça, je traduis ça. Et du même coup, des différences de traduction peuvent apparaître. Alors, ces considérations vous expliquent que je passe au second point, au sujet de la diversité des modes de traduction, des façons de traduire. Il y a en fait, non pas une façon de traduire, on passe la ligne de la langue A à la langue B, mais pour faire ce passage, diverses façons, modalités, des niveaux, des... On a, depuis très longtemps, depuis toujours, été conscient d'une polarité littérale, non littérale, plus libre. Si vous avez fait de la traduction à l'école, traduit de l'anglais, de l'allemand, vous savez bien qu'on... On a le choix. Est-ce qu'on traduit très littéralement? Mais alors en français, ce sera pas, ça passera pas très bien. Ou est-ce qu'on traduit plus librement, moins littéralement? Cette différence-là, elle est connue depuis toujours, pratiquement chacun la rencontre. On a parfois, dans le même sens, opposé la beauté et la fidélité. Il y a même un mot d'esprit qui n'est pas très gentil, pour les dames en tout cas, oui, pour les humains en général, qui dit que les traductions sont comme les femmes, celles qui sont belles ne sont pas fidèles, celles qui sont fidèles ne sont pas belles. Je crois que c'est une parole qui est très méchante, et heureusement, elle n'est pas vérifiée. Mais, vous voyez, c'est l'idée. Si vous voulez dire les choses d'une manière élégante, qui passe bien dans la langue B, qui soit belle, bon, alors il faut que vous preniez des libertés avec l'original. Oui. Si vous voulez être fidèle, que ça corresponde exactement à ce qu'il y a dans l'original, ça donnera un résultat qui n'est pas très beau dans la langue B, dans la langue réceptrice. Voilà l'idée. Mais tout cela reste quand même assez approximatif, et Je crois que la science linguistique, avec le grand travail de traduction qui s'est développé au XXe siècle, a fait quand même de grands progrès, qu'elle a élucidé ce qu'on a voulu dire en utilisant les termes de fidélité ou de beauté, de littéral, de non littéral. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a réellement deux grands pôles dans la traduction. Le pôle de l'équivalence dynamique, et le pôle de la correspondance formelle. Je vous explique de quoi il s'agit. Paul lui-même emploie le mot de dynamis, de force, pour la communication par une langue. Dans le chapitre 14 de la première aux Corinthiens, il dit « Si je ne sais pas, littéralement, la puissance de l'idiome, alors, ce qui est dit, je ne peux pas comprendre, c'est du charabia pour moi. Ce qui est dit comme d'un barbare. Si je ne connais pas la puissance de la langue, dire quelque chose, c'est jouer de la puissance de communiquer. Vous produisez un effet sur l'esprit, l'intelligence, les sentiments aussi, de la personne qui entend et qui comprend. Il y a un aspect de dynamique dans la communication. Alors, la théorie de l'équivalence dynamique est la suivante. Il s'agit pour le traducteur de produire le même effet dans la langue B que celui qui a parlé le premier dans la langue A a produit sur ses destinataires. Il ne s'agit pas de faire du mot à mot, de chercher à trouver un mot pour correspondre à un mot. Il s'agit que le message produise les mêmes effets d'intelligibilité, mais aussi de communication d'information, mais aussi d'impression esthétique, d'émotion produite, que dans la langue originale. Alors, peu importe qu'on suive le même ordre de mots, qu'on ait une phrase là où il y a une phrase, il faut s'affranchir de tout mot à mot et chercher ce dynamisme de la communication. Dire en français aujourd'hui quelque chose qui passera et qui communiquera le même sens global que ce qui a été dit en hébreu autrefois, même si on casse l'ordre des mots, si on fait tout autrement. Ça, c'est l'idée clé de l'équivalence dynamique. Alors, en un sens, on peut avoir l'impression que l'équivalence dynamique, c'est la traduction même. Si traduire, c'est dire dans une langue B ce qui a été dit dans une langue A, franchir la distance, eh bien, alors il semble qu'on ne puisse pas dire autrement, c'est la traduction même. C'est le but de la traduction, d'obtenir les mêmes effets, donc de faire de l'équivalence dynamique. Et pourtant, il y a un autre point de vue qui réhabilite l'effort de correspondance formelle. Même les plus zélés des théoriciens de l'équivalence dynamique, et là je pense en particulier à la thèse de doctorat d'un traducteur biblique professionnel qui a passé toute sa vie à traduire la Bible, Jean-Claude Margot, « Traduire sans trahir », un livre excellent, c'est sa thèse de doctorat, cette lettre. Même les zélateurs de l'équivalence dynamique disent « Autant que possible, si on peut garder les mêmes mots là où dans l'original il y a les mêmes mots, si on peut garder les mêmes images, si on peut faire un jeu de mots qui correspond, ah, il faut le faire. Autant que possible, si on s'exprime naturellement dans la langue B, ce sera bien de garder quand même une certaine correspondance avec les formes de la langue A. » Et d'autres vont plus loin en disant, celui qui ne cherche que l'équivalence dynamique, en fait, il prive son lecteur d'une certaine information. D'abord, il prive son lecteur d'une information sur les hésitations qu'on peut avoir quand on lit la langue A, par exemple l'hébreu. Vous avez une phrase en hébreu, vous avez à la traduire. Seulement, il y a deux ou trois façons de comprendre en hébreu. Le traducteur, il doit choisir. Bon, s'il fait de l'équivalence dynamique, il dit ce qu'il a compris lui, et puis le lecteur, il n'a que ça. Mais si on fait de la correspondance formelle, On peut essayer de garder la même ambiguïté. En français, reproduire les mots qui sont en hébreu, en traduisant, mais en laissant quand même l'incertitude. Et puis, il y a tout l'aspect du contexte historique. Ce n'est pas une parole qui est dite aujourd'hui, même si elle est dite aussi aujourd'hui par Dieu pour son peuple aujourd'hui. C'est une parole qui a été dite autrefois par Moïse, par Ésaïe. Et faire comme si ce n'était pas le cas, effacer tous ces traits d'antiquité, d'appartenance à une situation socio-historique autre que la nôtre, c'est aussi priver le lecteur ou l'auditeur d'informations. Une traduction, malgré tout, ce n'est qu'une traduction et elle fait bien de l'avouer. Ce n'est pas simplement une parole produite aujourd'hui. Et puis, il y a encore un autre aspect. En fait, tout grand auteur retravaille la langue dans laquelle il écrit. Il a sa manière à lui de l'utiliser. Il a ses mots-clés, les mots qu'il aime répéter, auxquels il donne un sens sans doute un petit peu différent de celui que communément on leur donne. C'est son cachet personnel. Un grand auteur, c'est comme ça. Alors, si vous gardez une correspondance formelle autant que possible, vous apprenez au lecteur français d'aujourd'hui quelle était la manière particulière de parler des grands auteurs de la Bible, Ésaïe par exemple. Donc, la correspondance formelle ne doit pas être purement et simplement abandonnée comme n'ayant aucune valeur. Et non, c'est un autre pôle, il y a deux pôles. Et la traduction va, en quelque sorte, être tiraillée entre ces deux pôles de l'équivalent dynamique et de la correspondance formelle. Et puis, il y a encore un autre paramètre, en quelque sorte. Il y a les niveaux de langue. Alors, par niveau de langue, on peut entendre les styles qu'on adopte selon les diverses situations de la vie. On distingue le langage technique, le langage solennel, comme quand on prêche par exemple, le langage ordinaire, le langage familier et le langage intime. Mais je ne vais pas m'attarder sur cette distinction. Il y a une autre distinction qui est celle de la richesse du langage, correspondant aux groupes sociaux. Il y a des gens qui ont des milliers et des milliers de mots à disposition, qui les connaissent, qui savent les agencer. Et il y a des gens qui ont un vocabulaire beaucoup plus rudimentaire, qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'école, qui ont été transplantés. Donc vous avez un vocabulaire beaucoup plus limité. C'est donc là un autre aspect qui est celui de la richesse du vocabulaire. Et pas seulement du vocabulaire, de l'ensemble des moyens d'expression. Vous pouvez avoir une langue riche, cultivée, raffinée, et vous pouvez avoir une langue très, très simple, très, un peu rudimentaire parfois dans ses moyens d'expression. Ça, c'est aussi un axe de différenciation devant la richesse maximale jusqu'à une certaine pauvreté ou simplicité, si vous préférez. Et alors, les traductions, donc les traductions de la Bible, elles se répartissent selon cette polarité et selon cet axe des niveaux de langue, comme nous pouvons les appeler. Et alors, je crois qu'il peut vous être utile que je vous dise où je situerai pour ma part les principales versions françaises qui sont sur le marché, qui s'offrent à nous aujourd'hui. Le pôle de la correspondance formelle, je crois que c'est vraiment tout à fait certain aujourd'hui, il correspond à l'effort de la Bible à la colombe, c'est-à-dire la version seconde révisée, dite Bible à la colombe, dont la langue est assez riche. C'est celle que souvent j'utilise. La Bible à la colombe, c'est dans ce texte-là que j'ai lu tout à l'heure, les versets de Néhémie. Je travaille depuis une dizaine d'années dans un petit groupe qui révise la Bible à la colombe. Au début, nous travaillons surtout sur des introductions et des notes, mais depuis quelques années, nous travaillons à réviser la traduction elle-même. Donc, le sujet m'intéresse d'autant plus pour la Société biblique française. Donc, la Bible à la colombe, c'est plutôt le genre, une correspondance formelle, on cherche à rester le plus près possible, en bon français quand même, mais le plus près possible de ce que l'on a, la structure de l'original, hébreu ou grec pour le Nouveau Testament. Et le langage employé est un langage quand même de la population assez cultivée. Et donc ça se situe peut-être par là. Du côté de l'équivalence dynamique, la traduction qui a fait connaître l'équivalence dynamique en France, c'est relativement neuf, l'accent sur l'équivalence dynamique, c'est le français courant, la Bible en français courant, qui est sans doute celle que l'on peut recommander pour de nouveaux lecteurs. Vous voyez, la Bible en français courant, ça c'est une de ses présentations. Mais elle n'est pas la seule. Quant au niveau du français, c'est, je dirais, un niveau moyen, quant à la richesse du français, la Bible en français courant. Vous avez, plus récemment, une autre version d'équivalence dynamique, au moins autant que la Bible en français courant, mais avec un français un peu plus riche. Voyez, c'est la Bible du Sommeur, que nous lisons assez souvent, aussi en chair ici, au tabernacle. La Bible du Sommeur qui est ici. C'est le pôle de l'équivalence dynamique, mais avec des mots un peu plus variés, un peu plus nombreux mis en œuvre que dans la Bible en français courant. Et puis vous avez une équivalence dynamique dans une langue plus simple, qui est le français fondamental. Le français fondamental, qui est une très bonne traduction, qui n'est pas encore disponible pour l'Ancien Testament, mais a ici son Nouveau Testament qui a été publié. L'Ancien Testament est en cours. On m'avait demandé des remarques pour un certain nombre de petits prophètes il y a 3 mois, donc vous voyez, c'est en cours. Le Nouveau Testament et l'Ancien aussi, d'ailleurs, sont surtout le produit du travail de 2 personnes. Sœur Lydie Rivière, qui travaille à Abidjan, et qui a un don remarquable pour l'expression dans un français simple, mais qui sera harmonieux et compris, parce que c'est avec un vocabulaire très limité, 1500 mots maximum. Et puis Madame Elsbeth Diaguraga, qui a été longtemps membre de notre église, donc vous vous rappelez, qui elle connaît l'hébreu et le grec et qui contrôle le travail de Sœur Lydie Rivière. Donc français fondamental, une langue donc très limitée, mais le système de l'équivalence dynamique. Et alors, entre ces 2 pôles, plus près de la moyenne, et aussi pour la langue, mais quand même, c'est plutôt une langue comme la Bible à la Colombe, vous avez la TOB. La TOB, traduction œcuménique de la Bible, donc un effort où catholiques et protestants collaborent ensemble. Vous avez, j'ai ici, voyons, ça c'est l'Ancien Testament, mais c'est la grande édition avec beaucoup de notes. Là, je ne parle pas des notes aujourd'hui, je parle de la traduction elle-même. Et puis le Nouveau Testament, oui, il est là, il y a le Nouveau Testament. Donc, la TOB, qui est une Bible très répandue, la Bible de Jérusalem, qui, je pense, en tout cas dans l'édition que j'ai, la Bible de Jérusalem 1, première édition, a un français vraiment nettement plus difficile. Donc se situe ici sur la gauche dans le tableau par rapport à la richesse de la langue. Et puis alors vous en avez une dont on a beaucoup parlé, qui à mon avis sort du cadre. Ce n'est plus vraiment de la traduction. C'est même pas de la correspondance formelle. C'est un effort de correspondance quasiment étymologique, mais c'est la Bible Chouraki. Un français parfois très difficile, et une correspondance alors rugueuse au possible, parfois inintelligible, avec l'original hébraïque. J'ai ici la Bible Chouraki. Il y a parfois des réussites saisissantes, mais souvent le sens ne peut pas être rendu. Il forge des mots en français, c'est pour correspondre aux étymologies au moins supposées des termes hébraïques. Alors il l'a fait seul, ah oui, c'est une méthode tout à fait à lui, et je vous dis, ça sort du champ de la traduction, c'est, cela décalque l'hébreu plus que ne le fait la correspondance formelle. Car ce n'est plus vraiment le sens. Mais en même temps, ça vous informe sur l'hébreu, c'est sûr. Et c'est toute la Bible qu'il a faite. Lui, juif, pourtant, il offre toute la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Nouveau Testament? Il l'a retraduit en hébreu, en se disant, ceux qui ont écrit dans le grec du Nouveau Testament, c'était des juifs. Donc en fait, ils pensaient quand même un peu hébreu. Donc retraduisons en hébreu. Et puis ayant retraduit, il n'a pas été le premier d'ailleurs à retraduire le Nouveau Testament en hébreu, il a traduit de l'hébreu selon sa méthode, ou disons, pas vraiment traduit, il a rendu l'hébreu sous-jacent au Nouveau Testament, et c'est cela qu'on en trouve comme sa traduction du Nouveau Testament dans ce volume. Alors, je vous ai là situé ces traductions bibliques, et il me semble maintenant intéressant, c'est que je vous donne quelques exemples et puis que je vous explique un peu les différences, que vous vous rendiez compte comment le travail se fait. Alors, j'ai pensé à quelques passages qui seraient intéressants. Je pense qu'on pourrait commencer par un court passage qui touche précisément au statut, à la vérité, à l'inspiration de l'Écriture sainte, de la parole de Dieu. Mais là, c'est un peu trop long quand même pour que j'écrive tout au tableau. Bon, je vais essayer de lire et peut-être d'écrire le verset 20 ensuite. Mais je lis d'abord la gamme des traductions pour que vous voyez. Traduction, donc correspondance formelle, Bible à la colombe, dont vous avez, je pense, une certaine habitude. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà la traduction de la Bible à la colombe. Traduction de la Bible en français courant. Voilà, celle-là. Donc la deuxième option très, très répandue parmi nous. Pour ce même passage, bien entendu. Ainsi, nous sommes encore plus sûrs du message annoncé par les prophètes. Vous ferez bien d'y prêter attention, car il est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Avant tout, sachez bien ceci, personne ne peut expliquer de lui-même une prophétie contenue dans l'Écriture. Car aucune prophétie n'est jamais venue de la seule volonté d'un homme, mais c'est parce que le Saint-Esprit les guidait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez tout de suite, me semble-t-il, la différence. Ça se lit plus facilement. Ça fait un peu plus français. Et puis alors, vous avez certains choix de termes. Au lieu de « aucune prophétie n'est l'objet d'une interprétation particulière », personne ne peut expliquer de lui-même une prophétie contenue dans l'Écriture. C'est à peu près le même sens. Mais alors que la Bible à la colombe est beaucoup plus proche de l'ordre des mots dans l'original, vous avez cette façon de dire. Mais vous avez d'autres façons de dire aussi, français courant, disons, équivalence dynamique. La Bible du semeur va prendre une autre option dont vous vous rendrez compte. C'est pourquoi nous tenons pour d'autant plus digne de foi la parole des prophètes. Et vous faites bien de lui accorder votre attention, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. Vous voyez, là c'est différent. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'aucune prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Là, c'est poussé, comme dans la Bible à la colombe,
pas l'idée. Vous voyez la différence. Français fondamental, dans le même genre équivalence dynamique. De plus, nous avons la parole des prophètes.
Elle est très solide.
Et vous avez raison de la regarder avec attention. En effet, elle est comme une lampe qui brille dans un endroit obscur, en attendant que la lumière du jour paraisse et que l'étoile du matin éclaire vos cœurs. Tout d'abord, vous devez savoir ceci.
Personne ne doit expliquer tout seul les prophéties des livres saints.
En effet, personne n'a jamais fait une prophétie par sa seule volonté, mais c'est avec l'aide de l'Esprit-Saint que des gens ont parlé de la part de Dieu.
Vocabulaire plus simple.
Et que le sens y est quand même aussi, avec le même choix que
dans la Bible à la colombe et
la Bible en français courant,
pour le verset 20. Voyez
la gamme de possibilités et le sérieux du travail. Alors maintenant, Chouraki, on a une idée de Chouraki.
Chouraki,
dans ce qu'il appelle
De Petros,
et nous avons au plus ferme la parole des inspirés.
Vous faites bien d'y prêter attention, comme à la lampe qui brille dans un lieu ténébreux, jusqu'à ce que le jour commence à briller et que l'astre lumineux se lève en vos cœurs.
Cela, en premier, pénétrez-le.
Nulle inspiration de l'écrit ne relève d'une interprétation personnelle.
Non, l'inspiration n'a jamais été apportée par le vouloir de l'homme,
mais des hommes, portés par le souffle sacré, ont parlé par Elohim. Elohim, donc, c'est la version... C'est de l'hébreu, ça.
C'est de l'hébreu, c'est Dieu. Le terme le plus courant pour Dieu, en hébreu. Vous remarquez,
comme différence majeure, dans le texte de Chouraki,
sa traduction inspirée et inspiration... pour prophétie,
prophète ou prophétie.
Je pense que c'est quand même là un petit coup de pouce, que ça ne correspond pas au terme hébraïque.
Il n'a pas l'idée tellement d'inspirer, mais ça, c'est l'idée de Chouraki.
C'est intéressant de l'observer. Il garde une certaine ambiguïté au verset 20. Nulle inspiration de l'écrit ne relève d'une interprétation personnelle. Parce qu'en fait, voilà, j'en arrive à l'explication pour ce verset. Ce que dit l'original en grec, alors là, cette fois, j'ai le grec, oui, c'est pas la traduction, mais c'est moi qui vous traduis.
Ce que dit l'original en grec, alors, ultra littéralement, là, c'est de la correspondance formelle, anonnante,
c'est ceci,
d'abord sachant que toute prophétie d'écriture,
de sa propre interprétation, littéralement, c'est déliment.
Ne pas arrive. Advient.
Le mot est traduit très souvent devenir ou advenir.
Alors, il y a deux grandes possibilités pour comprendre.
Et le traducteur y choisit,
forcément. Ou bien, cela veut dire que l'interprétation, le déliment, on délie la difficulté, vous voyez.
On dénoue la difficulté quand on interprète. L'interprétation ou le déliement s'applique à la prophétie de l'Écriture. Et que Pierre est en train de dire, une prophétie ne doit pas être dénouée par n'importe qui, n'importe comment. Alors,
quelle est l'autre option, si ce n'est pas par n'importe qui, n'importe comment? Certains diront l'autorité de l'Église, d'autres diront
l'Esprit qui doit guider l'interprétation. Ça, c'est la première grande option.
Dire aucune prophétie n'est l'objet
d'une interprétation privée, personnelle, particulière.
Et l'autre option, c'est de dire non, l'interprétation qui est en cause ou le déliment initiative, c'est celle du prophète lui-même.
Aucune prophétie
n'advient par l'initiative ou l'interprétation personnelle que le prophète avait des événements, des choses, c'est pas ses idées.
Vous avez les deux façons,
et la Bible du Sommeur a choisi la deuxième. Et moi, je penche quand même de ce côté aussi. Mais vous voyez, là, les traductions sont forcées de faire un choix, même si elles mettent l'autre possibilité en note, ce qui arrive, par rapport à une ambiguïté dans l'original. Et s'il y a une ambiguïté, si on hésite, c'est qu'il y a un argument qui va d'un côté et un autre argument qui va de l'autre. Le mot interprétation, c'est pas le mot courant, mais enfin, le mot qu'on peut comprendre d'interprétation, va plutôt dans le sens, quand même, puisque c'est un texte de l'écriture, que dans le sens de l'idée d'une interprétation qui a pour objet le passage biblique. Mais le verbe advenir, aucune prophétie n'advient d'interprétation, suggère plutôt que c'est le surgissement de cette prophétie même, et sa nature donc, qui est en cause. Ce qui correspond aussi au flot de la pensée. Pierre ne parle pas de l'interprétation dans ces passages, mais de la divinité de l'écriture, de son inspiration par Dieu. Voilà, c'est comme ça, vous voyez, qu'on doit peser les arguments lorsqu'on est devant une situation de traduction. Un autre exemple encore, lequel devais-je choisir, puis je laisserai donc juste un temps pour les questions. Oui, peut-être, il faut autant prendre un texte dans l'Ancien Testament. Alors, dans Ésaïe 53, un ensemble de versets qui n'est pas facile à traduire. Mais justement, là, on voit les différences entre les traducteurs. Ésaïe 53, 8 à 10. Je vais lire ça dans les différentes versions. Je commence par la Bible à la Colombe. Parce que c'est quand même la correspondance formelle, vous vous rendez le mieux compte de ce qu'il y a dans l'original. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Voilà la Bible à la Colombe. Maintenant, le français courant. Ésaïe. Alors, dans le français courant, c'est l'ordre hébraïque des livres, donc il faut changer d'ordre des livres dans l'Ancien Testament. Ésaïe 53. On l'a arrêté, jugé, supprimé, mais qui se souciait de son sort? Or, il était éliminé du monde des vivants, il était frappé à mort du fait des péchés de son peuple. Vous voyez la différence est considérable avec le verset que j'ai lu il y a quelques instants. On l'a enterré avec les criminels, dans la mort on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence ni pratiqué de fraude. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé, et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des descendants, et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Vous voyez, là, la distance est vraiment considérable. Mais ça ne tient pas au seul point de l'équivalence dynamique. Parce qu'en fait, ce sont des choix de compréhension qui sont différents aussi. Et la Bible du Semeur, qui a été faite par des évangéliques exclusivement, est aussi dans ce passage d'équivalence dynamique, mais elle est quand même plus proche quant au sens de la Bible à la Colombe. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort? Lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants, il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'actes de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. La tobe entre les deux. La tobe, en fait, est plus proche qu'en touche aux décisions de sens de la Bible en français courant. C'est aussi un peu les mêmes responsables. Sous la contrainte, sous le jugement, il a été enlevé. Les gens de sa génération, qui se préoccupent d'eux? Oui, il a été retranché de la terre des vivants. À cause de la révolte de son peuple, le coup est sur lui. On a mis chez les méchants son sépulcre, chez les riches son tombeau, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y eut pas de fraude dans sa bouche. Mais Seigneur, que broyé par la souffrance, il te plaise. Daigne faire de sa personne un sacrifice d'expiation, qu'il voie une descendance, qu'il prolonge ses jours et que le bon plaisir du Seigneur par sa main aboutisse. Voir encore ce que dit Chouraki. Je pense que cela peut vous étonner davantage que ce que nous avons vu dans la seconde de Pierre. La diversité entre ces traductions. C'est aussi parce que l'original est rempli de mystères. Je crois que le prophète est saisi par le message qu'il a apporté et qu'il a des phrases un peu heurtées, difficiles à interpréter de manière sûre. Du huis clos du jugement pris, son âge qui le narrera? Oui, il a été coupé de la terre des vivants. De la carence des peuples, il est heurté pour eux. Avec les criminels, son sépulcre a été donné. Avec le riche, ses tertres. Pour non-violence faite, pour non-duperie sur sa bouche. Adonai désire l'accabler, l'endolorir. Si son être se met en coulpe, il voit semence, il prolonge les jours. Le désir d'Adonai par sa main triomphe. Là, c'est très difficilement intelligible en français, ce que donne Chouraki. Vous voyez la diversité. Alors, je fais encore mon commentaire à partir de l'hébreu, qui vous indique quels sont mes choix, mais en même temps, donc, qui vous permettent peut-être de mieux comprendre les choix des diverses traductions qui sont devant nous. Par ou de, contrainte et jugement. Deux mots qui sont associés par un « et », mais on peut comprendre la violence d'un jugement injuste, la contrainte, une contrainte de type judiciaire. Les deux façons sont compréhensibles. Il a été pris. Et sa génération, ou, car le même mot, « dor », peut se comprendre aussi comme le sort, la demeure, là où on va. Alors, et son sort ou sa génération, qui le méditera, qui s'en préoccupe, qui le dira? Un verbe qui peut se traduire selon cette gamme. Car il a été retranché de la terre des vivants, ça c'est clair, à cause de la transgression de mon peuple, coup. Alors, normalement, l'amo, c'est à eux. Coup, à eux. Un des traducteurs a choisi cela. Mais, certains disent, non, c'est pas possible dans ce contexte, c'est coup à lui. Et au lieu du pluriel, comme c'est normal avec cette forme, l'amo, on traduira quand même par un singulier. Mais d'autres disent, non, en fait, la version grecque est septante, la vieille version grecque. Montre que le manuscrit qu'avaient laissé traducteur, c'était pas l'amo, mais la motte, un T à la fin. Et à ce moment-là, ça veut dire le coup à mort. Un coup à mort, il a été frappé à mort. Ce qui a été choisi, par exemple, dans la Bible du Sommeur. Oui. Et on a mis ou donné, avec les méchants, son sépulcre, et avec le riche, alors, littéralement, dans l'hébreu tel qu'il est, de motau, dans ses morts. Mais le pluriel est parfois employé pour intensifier simplement la pensée, donc on pourrait dire dans sa mort. Et là aussi, il y a une traduction qui a dit ça. Mais beaucoup de gens corrigent en disant c'est pas be-mot, mais c'est ba-mot qu'il faut lire, et ça veut dire à ce moment-là le tertre funéraire, le tombeau. Et c'est pour ça que vous avez tertre dans Shuraki, vous avez l'idée de tombeau dans d'autres versions. Parce qu'il y a une correction par rapport au texte hébreu tel qu'on le lit traditionnellement. Alors qu'il n'y avait pas, littéralement, sur pas de violence qu'il a faite et pas de fraude dans sa bouche. Et l'Éternel, Yahvé, Adonai, l'Éternel a décidé, ou c'est plus, c'est ce que veut dire le verbe, de l'écraser. C'est le verbe écraser avec le pronom objet. De l'écraser. Il l'a affligé. Si tu disposes en sacrifice de réparation, le mot Hacham, un seul mot, son âme, il verra une descendance, il prolongera ses jours, et le bon plaisir ou le plan de l'Éternel, Yahvé, dans sa main réussira. Voilà. Là, une traduction qui est un décalque pur, voyez, on ne pourrait pas publier ça, de ces versets. Et ça vous permet, je crois, de comprendre un peu comment les traductions, selon leurs divers principes, ont rendu ces versets. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez quelques questions supplémentaires sur ce sujet des traductions. Monsieur Sidaman, Monsieur Patin, Eric. Ces versions sont consultées. Les érudits qui maîtrisent les autres langues, le copte par exemple, ce que je ne fais pas, consultent ces versions et dans les commentaires savants, il y a des références. En gros, je pense qu'on peut dire que c'est principalement pour l'établissement des textes qu'elles servent. Moins pour l'élucidation du sens que pour dire, comme on n'a que des manuscrits et qu'il y a des différences entre les manuscrits parce que les copistes ont pu faire des erreurs, qu'est-ce que ce traducteur copte avait dans son original, d'après ce qu'il a rendu? Est-ce qu'il avait ce mot-là ou est-ce qu'il avait un autre mot? Les versions anciennes servent surtout pour cela. Mais dans certains cas, on s'en sert aussi pour l'élucidation du sens. Lorsqu'il y a un mot dont le sens est un peu disputé, on va chercher. Moi, j'ai une traduction, j'ai chez moi une traduction en anglais, faite à partir de la Peshitto, de la version syriaque. Eh bien, il m'arrive assez souvent de la consulter. Je suis devant un verset où il y a un problème. Je dis, tiens, bien que je ne lise pas donc, la Peshitta directement, je vais voir la traduction anglaise qui en a été donnée dans cet ouvrage que j'ai, et c'est une information qui peut être utile. Oui, les érudits s'en servent. Alors bien sûr, les versions donc les plus importantes sont celles qui sont en grec et en latin, parce que là, beaucoup de gens y ont accès, elles ont été davantage diffusées. Oui, monsieur Richard.
Tu pourrais nous éclairer sur la contestation à propos du mot « repentance » dans la Bible du Sommeur,
Oui, oui, oui.
Je pense que là, on a perdu quelque chose d'important.
C'est un problème très difficile à résoudre, parce qu'il s'agit donc de l'évolution de la langue française elle-même. Le mot repentance n'est plus dans certains dictionnaires, et le mot de repentir a pris des nuances tout à fait différentes. On parle d'un repentir d'écriture, d'un repentir de peintre qui retouche un peu son affaire. Mais donc, le mot de repentance n'est plus un mot du français, je dirais, ordinaire. Alors, les traducteurs se disent, il faut donc trouver autre chose pour rendre l'original. Et ce n'est pas facile. Le mot, c'est le mot, je le transcris en français, metanoia. Et le verbe metanoeo correspond en grec. Il est formé d'un radical qui évoque la pensée, l'attitude mentale. La dianoia, notre dérivé, ça veut dire la pensée, la pensée discursive. Et meta est le préfixe qui veut dire soit avec, soit après. Et à l'origine, la métanoïa, c'est la réflexion qu'on fait après avoir agi, et généralement on se dit « aïe, j'aurais dû agir autrement », et du coup on se repent. On se repent d'avoir fait ce qu'on a fait. Et quand il s'agit du pécheur, quand il pense après à ce qu'il a fait, ça correspond à peu près à repentance dans le sens classique en français. Mais il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'une pensée qui se morfond sur le passé, mais de la conséquence d'un changement aussi. On va changer d'attitude mentale et de comportement à la suite. Alors, ne pouvons plus utiliser repentance, puisque, en tout cas dans le registre d'un français assez courant, les traducteurs cherchent et se sont dit, en français, ce qui correspondrait le mieux, c'est changer d'attitude, d'optique, changer, finalement, changer de vie, changer de... Mais c'est vrai, voilà. On bute devant l'impossibilité de traduire parce qu'il n'y a pas une correspondance terme à terme. C'est vrai que ça ne dit pas tout à fait la même chose que le mot métanoïa en grec. Certains disent qu'il faudrait traduire conversion. Mais il y a un autre mot pour conversion. Un mot qui signifie vraiment faire demi-tour. Donc, voilà, on est en difficulté. Il n'y a pas du tout une intention idéologique ou spirituelle d'effacer l'idée de repentance. C'est pas du tout ça. C'est le problème que posent les dictionnaires. Et il se pose pour ce mot et pour bien d'autres. Moi, je ne suis plus tout jeune. J'ai une culture plutôt littéraire quand même. Alors, je me fais chaque fois rembarrer dans nos travaux de groupe sur la ville de la Colombe parce que je veux maintenir des mots. Et puis, on me dit, mais non, le dictionnaire vieillit. Vieux, vieillit. Comme tour d'expression. Alors, on ne peut pas utiliser ça maintenant parce que si c'est vieux maintenant d'après le dictionnaire, ça aura complètement disparu dans 10-15 ans. Donc, on ne peut pas employer ça. C'est un vrai problème. La contextualisation, c'est justement de trouver les mots qui s'emploient aujourd'hui. Alors, on peut toujours se débrouiller, comme je l'ai dit, à cause de la souplesse, de l'élasticité des langues, on peut toujours se débrouiller pour dire la chose avec beaucoup de mots. C'est ce que j'ai fait en vous expliquant métanoïa. On peut dire changer d'attitude fondamentale, de pensée et de vie. Seulement, si vous répétez ça 50 fois dans un texte qui a métanoïa, c'est pas possible. Lorsqu'on n'a pas un mot en français, pour un mot qui revient souvent dans le texte original, ça alourdit trop, on ne peut pas. Oui. Et voilà la difficulté que rencontrent les traducteurs. Bon, Monsieur Patin, je ne lui ai pas donné la parole alors qu'il a... Normalement, c'était à lui, oui. c'est loin, Eric. Oui, non, je n'ai pas de solution à ce problème. Je reconnais qu'il se pose. Je recommande, en général, de se contenter de deux ou trois traductions pour son travail personnel de lecture d'études bibliques. Moi, j'en ai un plus grand nombre parce que c'est mon travail, hein, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas se disperser, selon l'image que je donne sur la table ici. Mais cela dit, si on apprend les versets par cœur, le problème reste posé. En un sens, j'aimerais dire, mais je me retiens quand même, j'aimerais dire, choisissons le français courant, parce que c'est surtout pour les enfants que la mémorisation se fait, c'est la version qu'ils comprennent facilement. Mais le problème du français courant, c'est qu'elle n'est pas très, très jolie, très belle. elle manque de cachet littéraire. Et puis, il y a des choix, là où il y a des choix à faire, qui ne sont pas toujours les choix des théologiens évangéliques, des exégètes évangéliques. Alors, on hésite à recommander d'apprendre par cœur le français courant. Alors, je n'ai pas de solution toute faite. Monsieur de Chavannes, et puis je pense que c'est le dernier à intervenir, je pense, parce qu'il va falloir descendre au repas.
Il semblerait que les différentes versions prennent sous le poids des théologiens qui les président, à savoir qu'il me semble que les versions sont en train de la théologie missionnaire qui sont là, qui sont en train de se rendre. Je me rends compte aujourd'hui qu'il faut avoir une vue d'ensemble, son théologiquement le plus large possible, peut-être même le plus large possible. Nous devons toujours avoir recours à différentes versions. Mais je prends essentiellement et in fine la table qu'il faut.
Alors, je pense que les théologiens, par leur choix personnel en matière de doctrine biblique, de doctrine chrétienne, effectivement, influencent la traduction. Mais je crois qu'il faut quand même dire que la chose reste limitée. Bon, je viens de le dire pour la Bible en français courant, donc je ne me dédie pas, cela joue aussi pour la Tob. Et le verset d'Ésaïe 53 au milieu du passage que j'ai lu, à mon avis, est vraiment saccagé par la traduction de la Tob, parce qu'ils n'ont pas compris ou ne veulent pas comprendre la doctrine en cause. Donc, je ne dis pas qu'il n'y ait pas d'influence. Mais quand même, grosso modo, ces gens-là sont des gens rigoureux, honnêtes, et pour 99 versets sur 100, je suis sûr que ça ne joue pas, qu'il n'y a pas une influence directe de leur option de foi. Mais maintenant, je ne peux pas nier que cela joue quelquefois. Alors, la meilleure façon de s'en protéger, c'est d'aller vers la correspondance formelle. Oui, ce que j'ai expliqué d'ailleurs tout à l'heure. Parce que plus on va vers l'équivalence dynamique, plus c'est le choix de compréhension du traducteur qui s'impose. Oui. Donc, un chrétien qui veut vraiment faire un travail personnel, je crois qu'il lui faut une version de correspondance formelle. Au moins une. Alors, je mets en avant la version de la Colombe, non que je la considère comme parfaite, je travaille justement à essayer de l'améliorer dans le cercle dont je vous ai parlé. Donc je considère qu'elle a des imperfections, mais je pense qu'elle est quand même meilleure que la Darby. La Darby, c'était la meilleure dans cet ordre-là pour la correspondance formelle jusqu'à la Bible à la Colombe. Elle reste intéressante à consulter, et généralement en classe, comme j'ai un exemplaire petit et léger, c'est celle que je prends, que j'emporte avec moi en classe, pour n'avoir pas le volume quand même assez pesant de la Bible à la Colombe. Donc je ne la méprise pas du tout, mais je crois que, globalement, les avantages qu'elle avait de correspondance formelle, on les retrouve dans la Bible à la Colombe, et qu'on n'a pas les inconvénients qui étaient associés à la Bible Darby, entre autres son âge. Elle n'a pas pu prendre en compte tout ce qu'on a pu découvrir quand même sur les langues, depuis un siècle. Alors la version Hostie est assez proche en fait de la Tob et de la Bible de Jérusalem. La grande différence, c'est que c'est l'œuvre d'un homme, enfin assisté de Trinquet, alors que les autres Bibles sont, Bible de Jérusalem ou Tob, sont l'ouvrage d'un grand nombre de spécialistes qui ont chacun pris un livre. Alors il y a des inégalités, surtout dans la Tob. Il y a des livres qui sont traduits plus équivalence dynamique, d'autres plus correspondance formelle, certains sont très bons, d'autres sont vraiment moins bons, etc. Et l'avantage d'Hostie, c'est qu'il y a une plus grande homogénéité. Mais elle s'est quand même un peu moins diffusée, donc je n'en ai pas parlé pour cette raison. Et puis je ne la possède pas. Hein. Je la consulte aussi dans la bibliothèque à la faculté, par exemple, mais je ne la possède pas. Bon, je vois que M. Berger, alors que pour notre doyen, pratiquement, je ne peux pas ne pas lui donner la parole, mais ce sera la fin, hein, maintenant.
Il y a 60 ans, j'ai eu ma première Bible. C'était une Bible synodale. Mmh. On ne parle plus.
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je l'ai assez peu pratiquée. La Bible synodale était la concurrente de la Bible Second, non révisée, ou révision 1910. Et on disait, en gros, que Second était supérieur pour l'Ancien Testament et la synodale un peu supérieure pour le Nouveau. mais elle était faite à peu près selon les mêmes principes, selon les mêmes niveaux de langue, plutôt correspondance formelle comme la seconde, mais un peu moins strictement quand même que la Bible à la Colombe.